when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, De l'autre côté. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Son ami Edmond lui a demandé de lui résumer l'histoire de son prochain roman. Résumer un roman, ce n'est pas qu'une histoire en roman, et le résumé risque plus de nuire à l'œuvre qu'autre chose. Mais puisqu'il faut faire plaisir à Edmond, résumons donc. Il se lève de son fauteuil et se met devant la cheminée. Tu sais, je n'aime pas résumer mes histoires. Voilà en quelques phrases. Un homme est amoureux d'une femme fatale. Tu vois le genre. Elle est mariée et veut se débarrasser de son mari. Elle demande à son amant de faire la besogne et de prendre sa place. Une fois que le mari est assassiné, l'amant prend sa place. Elle le mène chez un notaire et lui fait signer des papiers pour qu'elle puisse hériter. Ensuite, elle cherche à l'éliminer par un autre amant pour devenir l'héritière de son mari. Voilà. Edmond réfléchit une seconde, puis dit « Elle est un peu simpliste ton histoire, et pas très logique. » « Je savais qu'en résumant l'histoire, j'allais la mettre à plat, lui enlever son relief, son ambiance, tout ce qui fait qu'un roman est une œuvre artistique. » Ce n'est pas le thème qui est la chose principale, mais le verbe. Pour ce qui est de la logique, la vie ne l'est pas, et je ne suis pas mathématicien. Si tu regardes bien les choses, la plupart des crimes sont commis pour des raisons logiques. Si les criminels réfléchissaient un peu avant de faire leur crime, ils verraient qu'ils pourraient résoudre leurs problèmes d'une autre façon que par un crime. Mais la plupart du temps, ils ne pensent pas vraiment réfléchir, parce qu'ils sont comme envoûtés, obsédés par leur idée fixe de tuer. Edmond regarde sa montre.
Il se fait tard
et se lève.
Je te raccompagne ?
Pas la peine.
Mais si, cela me permettra de marcher. J'ai passé toute la journée à écrire et... J'aimerais bien, avant d'aller me coucher, un peu marcher.
Ils sortent du salon. Dans le couloir, chacun prend son par-dessus et sortent de l'appartement.
Thank you. tu me parles.
Dehors, c'est la rue Édouard Herriot. Il est 1h30, nous sommes en novembre. Il fait un temps froid et sec. Armand est grand, mince. Il a des cheveux et une petite moustache grise. Son visage est agréable. Il est habillé comme Edmond, avec un manteau marine. Edmond, lui, est petit et gros. Il est presque chauve et son visage est tout rond. Ils sont tous deux 35 ans. Une fois qu'il a accompagné son ami, qui habite à un quart d'heure de chez lui, Armand a encore envie de marcher. Alors, il va au hasard dans les rues désertes. Après une demi-heure de marche, il se trouve dans un quartier lugubre et populaire, un de ces quartiers qui ressemble encore aux années 50. Là, seule chose vivante, un café populaire encore ouvert. En passant devant, il décide de rentrer pour prendre un drogue. Le café est sombre, sans l'alcool et la cigarette. Tables sont poisseuses, un vieux assis au fond du bar et le cafetier, un gros homme avec une casquette sur la tête et un mégot à la bouche. Armand s'approche du bar. On peut avoir un drogue ?
Ouais !
Le cafetier le lui prépare et lui sert. Merci. Armand boit son drogue à petite gorgée. Cela lui fait du bien. La sonnerie de la porte fait retourner Armand. C'est un homme grand, mince, le visage agréable, est habillé dans ce costume noir. L'homme s'avance vers le bar avec le sourire. Se retourne et continue à boire son drogue. Une main se plaque contre son épaule. Il se retourne, c'est l'homme qui vient d'arriver. C'est par hasard que je t'ai trouvé ici. J'aurais jamais cru te retrouver dans un endroit pareil, mon vieux. Il t'a fait chercher en toute la ville. Comment ?
Oui, je sais, vous êtes disputé, mais elle t'aime, tu la connais, elle est comme ça.
Je crois que vous vous trompez, je ne comprends rien à ce que vous me dites.
Ne fais pas l'idiot, mon vieux, arrête de bouder. Ton départ l'a fait beaucoup souffrir.
Qu'est-ce que tu bois, là?
Un drogue.
J'en prendrais bien un, moi aussi.
Le cafetier le sert.
Il en boit une gorgée. Finis pas ton verre?
Armand ne cherche plus à comprendre.
Il finit son verre.
Armand ne cherche plus à comprendre. Il voit tout tourner et tombe à terre. Et tombe à terre. Tombe à terre.
Du mal à ouvrir les yeux. Il a du mal à ouvrir les yeux. Mais ce blanc qui traverse les paupières le gêne. Enfin, il les a ouverts. Une clarté lumineuse lui fait mal aux yeux.
C'est un voile de tulle blanc qui ondule doucement au gré de l'air. Il tourne la tête du côté droit et voit une tapisserie rose tendre. Du côté gauche, une armoire Louis XV. Il est dans une chambre. Mais quelle chambre? Le bruit d'une porte qui s'ouvre. Se tourne vers la droite. Vient d'entrer une femme grande, mince, blonde et d'une beauté très élégante que l'on peut qualifier de femme fatale. Elle est en déshabillé de satin blanc. Elle s'approche d'Armand avec le sourire. Se penche et l'embrasse sur le front.
Où suis-je?
Elle hausse ses épaules, comme si tu ne le savais pas. Chez moi, chérie.
Je ne vous connais pas. Quoique votre silhouette me dise quelque chose.
Ah, voilà qui est mieux, petit coquin. Va, tu me joues cette comédie pour me faire complimenter sur ma silhouette.
Mais quel est votre nom?
Elle sérit et décide d'y prendre comme un jeu.
Grâce, monsieur.
Grâce?
Comme la fille de mon roman, et vous lui ressemblez?
Elle sourit, lui met une tape sur la jambe par-dessus ses draps et se lève.
Malheureusement, mon chéri, il se fait tard, et tu n'as plus le temps de jouer.
Tu dois te lever. Félicien revient aujourd'hui.
Félicien? Ton mari?
Oui.
Comme dans mon livre?
Arrête de jouer et dépêche-toi de te lever.
Elle se dirige vers la sortie de la pièce. Avant d'ouvrir la porte, elle lui envoie un baiser.
Armand soupire. Je n'y comprends rien du tout. Ou je suis fou, ou j'ai perdu la mémoire.
Il se lève nu. Trouve des vêtements sur une chaise qui ne sont pas les siens. Intrigué, il fait les poches de la veste et trouve un portefeuille.
Carte d'identité avec sa photo. Mais pas possible! Mais je rêve! Sur la carte d'identité se trouve ma photo, mais il y a le nom de mon personnage. Pascal dessus.
La porte s'ouvre. assez grosse. Ces vêtements ne sont pas à moi.
Comment ?
Elle s'approche, les regarde.
Mais si !
Écoutez, madame, je n'y comprends rien. J'en ai assez de cette histoire. Si c'est une blague, elle a assez duré. Je m'appelle Armand, l'aîné, et je suis écrivain. Pascal, le dur, est mon personnage, et non moi.
Tu es complètement fou, mon chéri. Mais non, c'est l'alcool. Quelle idée as-tu aussi de t'en boire, mon chéri ?
Elle s'arrête de parler parce qu'elle entend des pas dans le couloir.
Oh mon Dieu, c'est Félicien. Dépêche-toi de t'habiller. Tu sais comme il est coléreux.
Elle sort de la pièce en vitesse. Il s'habille. J'en ai assez de tout ça. Je vais m'en aller vite fait. Il sort de la chambre. Longe un couloir. Une porte s'ouvre. C'est Félicien qui sourit à Armand.
Pascal, mon vieux!
Il le prend par l'épaule.
Alors, il paraît que tu étais dans un drôle d'état hier au soir.
Grâce a été obligée de te garder chez nous, sacré Pascal, va. Et il le fait entrer au salon. Où se trouve Grosse. C'est un salon meublé à l'anglaise. Félicien est un homme fort, souriant, les cheveux bruns, habillé d'un costume gris. Sa femme a mis une robe rouge. Elle lui demande « Vous allez mieux, Pascal ?» Pascal ne sait que répondre. Félicien lui dit « C'est bien que tu sois ici. J'ai décidé de passer quelques jours à Cannes. Nous t'emmenons avec nous. Il y aura aussi Ardirien. »
Comme dans mon roman.
Ça te va, Pascal ? Je suis tellement heureux. Si tu savais, là-bas, ce sera formidable.
Oui, j'accepte. Je n'avais qu'à pas écrire cette histoire.
Très bien. Nous partons demain matin et tu restes avec nous jusqu'au départ.
Comme cela, je ne risque pas de vous fausser compagnie.
Il a accepté parce qu'il est curieux de savoir jusqu'où cette histoire va le mener. C'est tellement rare qu'un écrivain se retrouve par hasard dans son roman et prenne la place du héros.
Petite parenthèse, pour faciliter les choses, nous n'appellerons plus Armand que Pascal, c'est-à-dire par le nom de son personnage. Mais nous ne lui dirons pas, car il est suffisamment troublé comme cela.
Ils sont arrivés depuis 2 jours. Grande villa blanche, style 1900, un peu en retrait de la ville. Pascal, habillé de blanc, fait les 100 pas dans sa chambre. Une grande chambre avec forte fenêtre, balcon, meubles laqués blancs. Je suis prisonnier de mon roman. Je ne peux en sortir. Je vis, je ressens ce que j'ai voulu faire vivre et ressentir à mon personnage. Ça paraît incroyable. J'aimerais me sauver, quitter ce monde de mots, de papier, si l'on peut dire. Parce que ce que je touche, c'est du solide. Mais chaque fois que j'essaye de quitter tout ça, il y a quelqu'un qui m'en empêche. Un de mes personnages. Et je suis forcé de vivre ce qui a été écrit. Que faire? J'ai bien essayé de réécrire certaines scènes pour pouvoir m'en sortir. Mais à chaque fur et à mesure que j'écrivais, les phrases s'effaçaient, comme si l'on ne pouvait pas rectifier le destin. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je suis devenu comme mon personnage amoureux fou de grâce. Une femme de papier, de fiction, qui n'existe que sur le papier. Et c'est fou, mais je n'y peux rien. Je dois aller jusqu'au bout de mon histoire. Si j'avais su, j'aurais écrit mes mémoires. Là au moins, je me serais retrouvé moi avec mon histoire. La porte s'ouvre. C'est grâce. Elle accourt vers lui. Tombe dans ses bras. Oh Pascal, comme je t'aime. Je voudrais toujours être auprès de toi. Pourquoi ne suis-je pas libre? J'aurais dû attendre de te connaître au lieu de me marier avec ce rustre. Embrasse-moi. Que puis-je faire d'autre? Je suis pris. Et il l'embrasse. Ils sont tous les trois dans le salon, assis dans des fauteuils autour d'une table basse en verre où se trouve de la boisson. Il est 22h. Durant toute la soirée, Félicien a été morose parce qu'il s'ennuie et pense que sa femme fait exprès de rendre ses vacances impossibles par des soi-disant migraines ou autres. Félicien termine son verre. Il a beaucoup bu. Il transpire et a le regard mauvais. Il pose le verre sur la table.
C'est ta faute tout ça.
Et il se lève.
Fais exprès de me gâcher mes vacances, garce.
Félicien, je t'en prie, me dire tes expressions.
Je ferai ce que je veux. Garce, grosse. Cela sonne bien ensemble, non?
Elle se lève furieuse.
Je t'interdis, nous avons un invité.
Tu n'as rien à m'interdire.
Elle fait le geste de le gifler. C'est lui qui la gifle. Elle sort de la pièce en claquant la porte. Félicien se rassoit dans un fauteuil. Pascal, gêné, pose son verre. Se lève. Et sort de la pièce. Il va dans sa chambre. Il a tout juste eu le temps de fermer la porte, qu'elle se rouvre.
C'est grosse, qui tombe dans ses bras en larmes. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Tu m'avais vu comme il a été odieux. Délivre-moi, délivre-moi.
Tue-le.
Non, grosse, je ne veux pas. Parce que vous jouez de moi. Vous voulez que je vous aide pour pouvoir prendre la fortune de votre mari.
Elle se dégage.
Mais c'est ignoble, le rôle que vous me donnez.
C'est moi qui l'ai imaginé. Vous êtes un personnage de mon roman. J'ai imaginé ceci. Vous avez l'idée de me faire tuer votre mari
pour que je puisse prendre sa place et vous aider à irriter. Ensuite, vous me ferez tuer par un autre de vos amants.
C'est horrible ce que vous dites. Je suis une femme honnête. Pourquoi voulez-vous me faire faire des choses pareilles?
Mais c'est dans mon roman.
Ce n'est pas une raison. Je suis déçue que vous pensiez à des choses pareilles. Vous devriez avoir honte. Surtout en ce moment où je souffre tant. Pourquoi avoir accepté mon corps si vous pensiez à tout cela? Je vous aime malgré tout, que je sache qui vous êtes. Alors, si vous m'aimez, aidez-moi au lieu de dire n'importe quoi.
Elle se fait voluptueuse, se penche à son cou et lui tend les lèvres pulpeuses. Rouge.
Aidez-moi.
De toute façon, je ne peux pas faire autrement et dire que c'est moi qui ai écrit cette histoire.
Alors, c'est oui.
Il a chaud, c'est le désir qui monte. Que puis-je faire d'autre si au moins je pouvais sortir de ce roman? Je n'ai jamais eu de chance. C'est bien de moi, ça, d'entrer dans un livre.
Ne recommence pas avec cette histoire. Écoute-moi. Je ne peux plus vivre avec Félicien. Je t'aime et je veux vivre avec toi.
Pas la peine de m'expliquer, je sais comment je vais le tuer.
Tu y pensais déjà, mon chéri?
Cela fait 2 ans que j'y ai pensé.
Mais c'est impossible.
Nous ne nous connaissions pas.
Tu as raison, tu n'étais pas né. Arrête de dire des enneries.
Explique-moi comment tu feras.
Il l'embrasse sur les lèvres.
Nous le savons tous les deux, puisque c'est ton plan.
Le lendemain matin, Pascal demande à Félicien de faire un tour en bateau.
Félicien est propriétaire d'un petit bateau de plaisance.
Tu as une bonne idée.
Oui.
Vers les 10 heures, ils sont partis tous deux. Le ciel est bleu, la mer est belle. Une fois que le bateau est bien au large et seul, Pascal appelle Félicien sur le pont.
Me voici à la page 605 de mon roman. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Et puis, ce n'est qu'un personnage de papier.
Il s'avance vers Félicien.
Le prend par le cou et un bras pour le mener vers le large.
Mais que cherchez-vous à faire? Je viens à vous pousser par-dessus bord. Je veux vous tuer.
Comment?
Oui, nous sommes à la page 605 de mon roman. Et à cette page, je suis censé vous jeter par-dessus bord parce que vous ne savez pas nager.
Mais je ne veux pas.
Il se dégage en se défendant.
Pascal a de la peine à le tirer.
Il lui donne des coups de pied dans le ventre.
Ne vous défendez pas tant. Vous n'êtes qu'un personnage de papier. Et de toute façon, vous devez mourir.
Pascal lui écrase le pied.
Aïe ! J'ai beau être de papier, je ressens la douleur. Et je ne veux pas mourir.
Pascal est soufflé, n'en pouvant plus de le tirer. Surtout qu'il se défend bien. Pascal lui mord le nez.
Aïe ! Félicien lâche prise pour mettre ses mains à son nez douloureux.
Pascal en profite et d'un geste brusque et surhumain, comme dans les romans, il en profite pour le jeter par-dessus bord.
J'aurais dû le créer moins grand et moins fort si j'avais su.
Disparition de Macri a-t-il provoqué une enquête de police? Comment Pascal a-t-il pu prendre la place du mari? On n'en sait rien, parce que l'écrivain a omis de nous le dire. Un jour, elle le mène chez un notaire pour lui faire signer des donations pour elle, au nom du mari, qu'il remplace, bien sûr. Je m'aperçois qu'en vivant ce roman, qu'il y a des choses complètement invraisemblables.
Tu comprends, chérie, c'est pour notre tranquillité.
Ne t'en fais pas pour moi, c'est moi qui ai hélas écrit cette histoire. Je sais comment elle va finir. Tu feras une parfaite vœu joyeuse.
Vient souvent passer la soirée chez eux un riche et beau jeune homme de 22 ans. Il est grand, mince, blond.
Le soir, Pascal lui dit : C'est vous mon assassin ?
Comment ? C'est moi qui vous ai fait. Je connais vos plans. Vous voulez que je vous les dise ?
Non, parce que je n'aurai plus la surprise.
Un soir, ils sont allés tous les trois voir une vidéo à Les Lacs. Après la vidéo, Pascal a voulu aller au jardin suspendu. Ils y sont allés. Arrivés vers le bord, puisque je dois mourir, autant que je choisisse mon heure. Et il enjambe le rebord.
Les deux autres le retiennent.
Lâchez-moi, lâchez-moi, laissez-moi mourir. De toute façon, vous voulez ma mort.
Cross lui dit « Mais tu sais bien que ce n'est pas le moment, ni comme cela. »
Il est remis sur pied. Elle défroisse son costume.
« Sois raisonnable, mon chéri. »
Sa femme est absente, il est au salon avec l'ami de sa femme, Adrien. Il est 22h, ils sont tous deux assis sur un fauteuil.
« C'est le moment, vous allez me tuer ?»«
Puisque vous le dites. Allez-y, de toute façon je ne peux pas sauter les pages, je dois vivre à la lettre cette histoire. » Et ils se lèvent tous les deux.
Devait être à votre bureau. Cela m'empêchera de vous y déposer.
Très bien, allons-y.
Ils y vont. Asseyez-vous. Je sais, je connais mon rôle.
Drian sort de sa poche un pistolet et le lui tend.
Vous voulez le faire vous-même ?
Tout de même pas. Il lui met l'arme sur la tempe et tire.
Le corps s'affaisse sur le bureau. Adrien lui met l'arme dans la main et sort de sa poche une enveloppe. Il met à côté du corps, puis il sort de la pièce.
Pascal se transforme en celui d'Armand. Le bureau de Pascal se transforme en celui d'Armand. Le jour apparaît, la porte s'ouvre. De la bonne, une petite grosse, voilà le corps d'Armand sur le bureau et la cour. Voit qu'il est mort, sort de la pièce. Demi-heure plus tard, elle est retournée au bureau avec deux policiers en uniforme et un en civil. Elle répond à celui qui est en civil.
Oui, il était étrange, déprimé, nerveux.
Le commissaire ouvre la lettre et la lit.
Oui. Je vois, il avait des difficultés à écrire son dernier roman. Il n'avait plus d'idées. Il se sentait envoûté, envahi par ses personnages.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. De l'autre côté, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement,